Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Nous nous souvenons de l'histoire de Job. Job qui était un homme intègre, la Bible nous dit, un homme qui craignait le Seigneur. Et il faisait des sacrifices même lorsque ses enfants, après s'être réunis, il se disait peut-être que mes enfants auraient eu une attitude qui aurait été incorrecte vis-à-vis de Dieu. Alors il faisait des sacrifices pour demander pardon. Et lorsque le diable va même se présenter devant le Seigneur va lui poser une question. Il va lui demander, mais tu viens d'où? Le diable dit, je viens de parcourir toute la terre. Et le Seigneur lui pose la question, mais est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Parmi tous les habitants, tous les humains qui peuplaient la terre, le Seigneur lui demande s'il n'a pas remarqué une personne en particulier. Et effectivement, Satan l'avait remarqué, c'est-à-dire Job, l'homme qui était intègre sur la terre. Donc on voit par là que même si la terre est peuplée d'une multitude d'êtres humains, eh bien le Seigneur tient compte de chaque être humain de façon individuelle. Même s'il y avait du monde sur la terre, eh bien le cas personnel de Job n'était pas passé inaperçu auprès du Seigneur, puisqu'il l'a flatté en quelque sorte. Lorsqu'il dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Donc on peut sentir la fierté et la joie du Seigneur lorsqu'il parle de Job parmi tous les millions d'hommes qui sont sur la terre. On se souvient que le diable va vouloir quelque part éprouver Job ou peut-être défier Dieu en disant que si Job t'aime, c'est uniquement parce que tu l'as béni. Mais on voit aussi qu'à travers la réponse du Seigneur qui va lui dire, je te permets de le persécuter. Le Seigneur avait une telle assurance en la personnalité de Job, en la foi de Job, qu'il a permis que Job soit tenté, soit persécuté par le diable. C'était un être humain parmi tous les tant d'autres, mais le Seigneur connaissait particulièrement Job. Et c'est la réalité pour chacun d'entre nous. Même si nous sommes des millions d'êtres humains sur la terre, même si nous sommes un certain nombre de chrétiens, le Seigneur s'intéresse à nous de façon individuelle. Même si il a son peuple, ce qu'il appelle aujourd'hui le corps du Christ, le Seigneur nous connaît individuellement et surtout, il nous aime aussi de façon individuelle. Même si nous pouvons reconnaître qu'il y a un projet d'ensemble, un projet pour l'Église, le Seigneur nous a donné l'ordre d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Dans l'Épître aux Corinthiens, on nous dit que le Seigneur a revêtu l'Église de toutes sortes de dons spirituels pour l'édification commune. Donc les dons que nous avons individuellement servent pour toute l'Église. Donc ça ne peut pas être un don particulier qui est pour toi, pour t'enrichir, pour faire ta vie, pour faire ta renommée. Non, tous les dons que nous avons servent à l'Église. Mais ce n'est pas parce que la réalité de l'Église est là que le Seigneur ne tient plus compte de la relation personnelle qui doit exister entre lui et nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de chrétiens dont la relation avec Dieu dépend de l'Église, dépend de l'ensemble. Il y a des personnes qui n'ont pas de vie particulière avec le Seigneur. Leur vie avec le Seigneur commence ici lorsque nous sommes ensemble. Et dès l'instant où il n'est plus dans l'assemblée, il n'est plus au milieu des frères, il n'a aucune communion personnelle avec Dieu. Il ne connaît pas son Dieu. Donc lorsqu'il parlera, il dira, le pasteur a dit, oui, tel frère a dit. C'est pas ça que le Seigneur attend. C'est que nous puissions dire, Dieu a dit. Et je peux affirmer que Dieu l'a dit parce que je connais mon Dieu. En dehors du rassemblement des saints, j'ai une vie personnelle avec Dieu. J'ai une communion personnelle avec Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce qui intéresse aussi le Seigneur, que nous puissions avoir une communion personnelle avec lui. Que nous puissions dire personnellement, je connais le Dieu que j'ai choisi. Je connais le Dieu auquel j'ai consacré ma vie. Et de ne pas dire comme on entend dans certains mouvements, le Dieu du pasteur untel, le Dieu du pasteur untel. Mais à quel moment ça sera ton Dieu à toi? À quel moment tu auras une communion personnelle avec Dieu? À quel moment tu pourras dire que le Seigneur m'a convaincu, que le Seigneur a mis telle conviction dans mon cœur? À quel moment tu pourras dire que je fais ça pour le Seigneur? C'est ce que le Seigneur attend de nous. Il est vrai que nous avons un projet commun. Nous sommes un peuple, nous sommes une famille. Mais le fait d'être ensemble, de servir le Dieu ensemble, pour une cause commune, ne doit pas exclure la réalité que nous sommes appelés à avoir aussi une communion personnelle avec Dieu. La prière ne doit pas commencer parce que le pasteur est dans les environs. La prière ne doit pas commencer parce que les frères sont dans les environs. Mais la vie personnelle avec Dieu a commencé dès l'instant où tu as donné ta vie, toi, au Seigneur. Le pasteur n'était pas là. Le frère et la sœur n'étaient pas là. Lorsque dans ton cœur tu as été convaincu que le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre, eh bien c'est Jésus-Christ, je n'étais pas dans ton cœur à ce moment-là. Le frère n'était pas dans ton cœur à ce moment-là. Mais c'est un choix que tu as fait personnellement, parce que tu as été convaincu personnellement. Et même si c'est vrai, nous sommes appelés à vivre en famille, à vivre comme un corps, il y a des moments où tu as une communion, où nous devons avoir une communion personnelle avec le Seigneur. Pour imager, encore une fois, je suis obligé de parler des sœurs qui sont mariées, quelquefois elles ne se contentent pas de voir qu'à la maison, il y a tout le temps du monde, les amis du mari sont là, les amis du mari sont là, il y a des moments donnés, elle veut être seule avec son mari. Même si c'est l'ami de tel, même si c'est le frère de tel, elle ne peut pas se contenter de vivre une vie de famille où il y a toujours l'ensemble. Il y a un moment donné, elle va vouloir soit un dîner en tête-à-tête au restaurant, soit une petite sortie au cinéma. Donc, elle voudra à un moment donné se retrouver seule. C'est la même chose. Lorsque on a choisi de venir au Seigneur, le Seigneur nous a aimés individuellement. Il nous a appelés de façon individuelle. Il nous a sauvés de façon individuelle. Alors, même si aujourd'hui, nous avons une vie commune, il y a des moments que nous devons consacrer seul à seul avec Dieu. Le privilège qu'avait Moïse, c'est parce que Moïse avait compris qui était son Dieu. Et même s'il y avait le peuple d'Israël, le peuple pour lequel le Seigneur est descendu en disant à Moïse, « J'ai entendu les cris de mon peuple. » Le Seigneur donc a eu de la compassion, il a eu de la pitié pour son peuple. Mais parmi le peuple, il faisait quand même la différence entre qui était qui. Moïse était un homme entièrement dévoué à Dieu. Et il avait une communion personnelle avec le Seigneur. Même si le Seigneur avait un projet pour tout son peuple, ça n'empêchait pas le fait qu'il y ait une communion personnelle avec Dieu. Et c'est à ça que nous devons aspirer, parce que le Seigneur veut aussi nous communiquer personnellement, nous dire ce qu'il pense de nous, nous dire ce qu'il veut faire de nous, nous dire ce qu'il attend de nous. Il ne faut pas toujours attendre que le projet du Seigneur pour ta vie passe par la prophétie d'un tel, passe par la parole de connaissance du pasteur, passe par la parole de connaissance du frère, non. Il y a des moments où le Seigneur veut te dire personnellement, voilà ce que je veux faire avec toi, voilà ce que je pense de toi, voilà ce que tu dois changer dans ta vie. Même si c'est vrai, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous ne pouvons pas imposer à Dieu la façon dont nous voulons qu'il nous parle. On accepte tous les moyens par lesquels le Seigneur se révélera à nous et nous fera connaître sa pensée. Mais nous voulons aussi avoir cette communion avec Dieu et de dire, le Seigneur m'a convaincu, le Seigneur m'a mis ça à cœur. C'est important de marcher en ayant la conviction que le Seigneur nous a aussi parlé, nous a aussi montré ce qu'il attendait de nous. Au moins, lorsque les choses sont faites comme ça aussi, quelquefois, on ne se retourne pas contre les autres. Parce que quand la conviction vient du pasteur ou de l'autre, tu diras un jour, c'est le pasteur qui avait dit. Mais Dieu te parle aussi de façon à ce que tu ne t'excuses pas et que tu ne rejettes pas aussi pour dire que c'est l'autre sœur qui avait prophétisé. C'est elle qui a dit, je me suis marié parce qu'on avait dit à l'église. Non. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça qui doit aussi être important. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Dans l'évangile de Jean, chapitre 21, Évangile de Jean, chapitre 21, à partir du verset 18, la Bible nous dit ceci. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Pierre s'intéresse à ce qui va arriver à Jean. Le Seigneur vient de lui parler personnellement et lui dire comment les choses se passeront dans sa vie et lui montrer comment il ne sera plus maître de sa vie, mais que Dieu prendra possession de lui et lui l'emmènera là où il ne voudra peut-être pas aller. Et Pierre, au lieu d'être fixé sur ce que le Seigneur vient de lui dire, il a la curiosité de s'intéresser à ce qui va se passer dans la vie des autres. Le Seigneur lui dit, mais que t'importe ? C'est une manière de dire, mais où est ton problème dans cette affaire ? Je te parle à toi. Là, c'est entre toi et moi. Et ce qu'il y a entre lui et moi, ça ne me regarde moi. Donc le Seigneur dit tout simplement, là, c'est le projet que j'ai pour toi. C'est entre toi et moi. Mais ce qui se passe entre moi et mon serviteur ne regarde que moi. Je n'ai pas à te rendre de compte sur ce que je veux faire avec mon serviteur. Je n'ai pas à rendre compte de ce que j'ai décidé de sa vie. Cela nous montre, bien aimé, que même si la mission a été confiée aux 12, même s'ils ont reçu une autorité particulière, un ministère particulier, ça n'enlevait jamais le fait que le Seigneur tenait à sa communion personnelle avec chacun de ses apôtres, avec chacun de ses disciples. Même si nous avons un projet commun, que nous travaillons dans l'évangélisation, que nous travaillons pour le salut des âmes, ça n'enlèvera jamais la réalité que le Seigneur tient compte de la relation personnelle qu'il attend entre toi et lui. Le Seigneur tient compte de ça. Et nous devons prendre conscience, bien-aimés, que même si nous marchons ensemble, il y a des moments où le Seigneur a besoin d'être personnellement avec nous. Le projet d'ensemble, il est bon. Il est important, il est incontournable, il est indispensable. On ne dit pas le contraire. Mais ce qu'il y a dans ton cœur, que Dieu voudrait changer, que ce qu'il y a dans ton caractère, que Dieu voudrait changer, ça c'est un travail qui se fait entre toi et lui. Il y a des choses que le Seigneur peut permettre en nous utilisant les uns et les autres pour être des brisements les uns pour les autres. Mais à un moment donné, quel que soit le brisement que le Seigneur permettra à travers la sœur, à travers le frère, à un moment donné, tu auras une décision personnelle à prendre. À un moment donné, tu auras un choix personnel à prendre. Même si d'autres t'ont prêché la parole pour venir au Seigneur, pour consacrer ta vie à Jésus, à un moment donné, il a fallu que tu fasses un choix personnel. Même si des personnes ont travaillé pour ton salut, le jour où tu es entré dans l'eau du baptême, ceux qui t'avaient prêché, ceux qui avaient prié pour toi, ne sont pas entrés dans l'eau avec toi. Tu es entré individuellement, personnellement. Lorsque tu as confessé que Jésus-Christ était ton Seigneur, tu l'as dit individuellement, tu l'as dit personnellement. Le Seigneur veut avoir une communion personnelle avec nous. Cette communion personnelle, premièrement, se manifeste comment ? Dans la prière. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui ne prient pas. Leur temps de prière commence tout simplement au milieu des autres, au milieu de l'assemblée. Il n'a pas un temps personnel où il s'adresse à Dieu. Un temps personnel où il se remet face au Seigneur. Je ne parle pas de la prière que nous faisons avant de manger, de la prière que nous faisons uniquement parce qu'on veut être protégé durant le trajet qu'on va faire. Mais ce temps où on a besoin de comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi aujourd'hui? Regarde, Seigneur, dans mon cœur. Dis-moi ce qui ne va pas. Montre-moi la voie que je dois suivre. Seigneur, qu'est-ce que tu dis du choix que je viens de faire? Seigneur, qu'est-ce que tu dis du travail dans lequel je veux m'engager? Est-ce que tu penses que ça va m'éloigner de toi? Est-ce que tu penses que ça va annuler les temps de prière que j'avais pour toi? C'est ça que le Seigneur a besoin. Et c'est de ça que nous avons besoin aussi, de savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Mais lorsque je parle ainsi, je n'ai pas besoin du pasteur. Lorsque je parle ainsi, Je n'ai pas besoin de ma femme, je n'ai pas besoin de mes enfants. J'ai besoin de me retrouver seul avec Dieu. De comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi. De comprendre aussi, Seigneur, peut-être comment je t'ai déçu. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Est-ce que la façon dont je pense aujourd'hui est conforme à ta volonté? Est-ce que la façon dont je pense aujourd'hui est conforme à ce que tu attends de moi? Est-ce que c'est propre au royaume des cieux? Ce temps de prière où il n'y a personne autour, ce temps de prière où le téléphone portable est éteint parce que je refuse d'être distrait. Le téléphone portable est un vrai obstacle. Il sonne. Il y a un texto qui arrive, malgré que tu pries, tu luttes dans ton cœur parce que la tentation d'aller regarder qui est là est grande. Donc tu pries, mais en même temps tu as la pensée que le téléphone vient de sonner. Et ça crée un obstacle. Ça coupe ta prière. Tu fais les choses, mais au-dedans de toi, il y a le désir, peut-être du feuilleton qui arrive. Le désir du match qui arrive. Et là, pendant que tu pries, mais il y a la pensée d'autre chose. Toutes ces choses-là viennent parasiter. Alors, quelquefois, tu t'empresses même de finir ta prière pour aller vite à l'activité que tu chéris, le feuilleton que tu as enregistré et qu'il faut voir à tout prix. Et en réalité, au moment où tu as prié, il y avait Dieu, mais il y avait aussi les feux de l'amour. Il y avait Dieu, mais il y avait aussi l'émission de sport. Tu n'étais pas seul avec Dieu. Il y avait autre chose dans ton cœur qui prenait aussi une place et qui t'a empêché d'avoir une vraie communion personnelle avec le Seigneur, durant lequel tu ne veux pas être dérangé, durant lequel tu as la foi que s'il y a un problème, Dieu s'occupera. Que s'il y a un problème, le Seigneur fera en conséquence. Il s'occupera de tout. C'est ce temps-là que nous perdons. C'est ce temps-là que nous ne prenons plus avec le Seigneur. On n'a plus de véritable communion avec Dieu. Où nous sortons de la prière, le visage changé. Parce que nous avons compris que Dieu nous a entendus. Nous avons compris que le Seigneur nous a exaucés. C'est ce qui s'est passé avec Anne, qui était stérile. Qui priait, mais elle n'enfantait toujours pas. Et sa rivale se moquait d'elle. Sa rivale la persécutait. Alors elle va s'humilier. À tel point que le sacrificateur qui était là pensait qu'elle était ivre. Parce que certainement la façon dont elle avait prié ce jour-là était différente de toutes les autres fois. Elle lui dit, non, je ne suis pas ivre. Mais je réponds tout simplement mon âme. Et la Bible nous dit que lorsque elle avait fini de prier, son visage n'était plus le même. Au moment où elle est sortie de cette prière, de cette rencontre, de cette discussion avec Dieu, elle venait de comprendre ce qui venait de se passer. Dieu lui avait répondu, Dieu l'avait exaucé. Et la Bible nous dit que son visage n'était plus le même. Elle est entrée avec un certain air de tristesse. Mais lorsqu'elle est sortie de cet entretien avec Dieu, elle a compris que là, quelque chose venait de se passer. Est-ce que c'est notre cas? Lorsque nous sortons de la prière, ou bien nous sommes encore tristes, nous sommes encore dans le doute. Si tel est le cas, bien-aimé, c'est qu'alors nous n'étions pas seuls avec Dieu. C'est que pendant que nous étions avec le Seigneur, nous avons emmené tous nos soucis avec nous, qui tournaient autour de nous, qui nous montraient du doigt, qui se moquaient de nous. Et on est sorti de la prière, de cet entretien avec Dieu, mais sans être convaincu que là, le Seigneur vient de faire quelque chose. Parce que celui qui sort avec le Seigneur, sur sa face, on voit. Au fond de lui, il sait si le problème a été réglé ou pas. Il suffit tout simplement de voir. Lorsque une personne a un rendez-vous pour un travail et qu'elle doit ou pas signer le contrat, il suffit juste de voir le visage quand il sort du bureau. Tu sais que la personne là, son problème est réglé. Ou tu sens que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Anne est sortie de sa rencontre avec Dieu et on pouvait voir sur son visage qu'il y a quelque chose qui avait changé parce qu'elle avait véritablement rencontré le Seigneur. C'est ça que le Seigneur attend de nous. D'être dans sa présence à un moment où rien ne va nous perturber parce que nous avons vraiment décidé de renoncer à tout à ce moment-là. De faire en sorte que notre rencontre avec le Seigneur soit véritablement une rencontre personnelle. Un temps passé avec le Seigneur, là où rien ni personne ne va s'immiscer entre nous et le Seigneur et déranger ce temps-là. Le Seigneur veut une communion personnel avec nous. Voyons ce que le Seigneur dit à Pierre. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. L'appel que j'ai pour toi ne dépend pas de l'autre. Ça ne dépend pas de l'autre. Toi, suis-moi. C'est entre toi et moi. Et ce que je veux faire avec l'autre, ça me regarde aussi. C'est entre lui et moi. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, il peut nous arriver quelquefois de recevoir quelque chose du Seigneur, mais qui doit aussi rester entre nous et Dieu. C'est ça l'intimité avec Dieu. Lorsque tu es dans l'intimité avec une personne, c'est qu'il y a des échanges où les choses sont personnelles. Des échanges pour lesquels tu sais que ça doit rester entre toi et celui, avec la personne avec laquelle tu as parlé. Et c'est la même chose avec Dieu. Il y a des choses qui sont pour nous. Que Dieu nous parle à nous pour nous fortifier. Que Dieu nous parle à nous pour nous enseigner. Il y a quelque chose en nous, un travail que le Seigneur veut faire en nous. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, lorsque nous regardons trop aux autres, lorsque nous envions les autres, nous risquons de passer à côté de ce que le Seigneur veut pour nous. Quelquefois, lorsqu'on observe de loin et qu'on voit ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie des uns et des autres, on a envie de faire comme eux. On a envie d'être à leur place. Mais le Seigneur nous répondra comme il a répondu à Pierre. Ce que je fais avec l'autre, ça ne te regarde pas. Toi, viens et suis-moi. Toi, cherche à avoir une communion personnelle avec moi. Et je te montrerai, je te révélerai ces choses cachées, des choses qui seront comme un secret entre toi et moi. Après, si Dieu nous appelle à en parler, on en parle. Mais on doit aussi avoir nos moments intimes avec le Seigneur, là où ça ne regarde que nous et le Seigneur. Ce qu'il y a dans ta maison, je ne pense pas que tu le cries sous tous les toits. Ce qu'il y a dans ta maison, je ne pense pas que tu racontes tout au travail. Tu sais qu'il y a certaines choses que tu peux dire, mais tu sais qu'il y a certaines choses, ça reste à la maison. Parce qu'il y a aussi une vie intime à la maison. Nous sommes frères et sœurs, mais on ne connaît pas tout des uns et des autres. On peut connaître ce qui est utile, utile à la communion fraternelle, mais il y a des choses, tu n'as pas besoin de savoir ça de ma vie pour être considéré véritablement comme mon frère. Tu n'as pas besoin que je te dévoile tout de ma vie pour que tu me considères véritablement comme ton frère. Mais tu estimes connaître l'essentiel pour que nous puissions marcher ensemble. Il y a des choses qui sont personnelles, entre guillemets, entre moi et le Seigneur. Il y a des choses que Dieu veut nous partager individuellement. C'est à nous de rechercher cette intimité-là et de ne plus vivre comme si notre vie avec le Seigneur dépendait d'un bâtiment, dépendait d'une autre personne. On doit chercher la communion personnelle avec le Seigneur. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, à partir du verset 1er. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit tout dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret, ton Père qui voit dans ton intimité, qui voit dans ton cœur, voit ce que tu fais. Il sait ce que tu fais, mais il sait surtout que tu le fais pour lui. Voilà l'enseignement que le Seigneur donne à ses disciples. Il dit, regardez tout cela, en parlant des scribes, des pharisiens, des sacrificateurs, tous ces gens-là qui marchaient dans les rues avec des beaux vêtements, qui faisaient de belles prières à haute voix pour être entendues. Le Seigneur dit, tout ce qu'ils font là, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Comme je le dis souvent, on ne donne pas une récompense à quelqu'un avant qu'il court. Tu ne peux pas être sur la ligne de départ, tu dis déjà, donnez-moi la médaille. Ça ne marche pas. Fais la course. À la fin de la course, tu as ta récompense. Mais lorsque le Seigneur dit qu'ils ont leur récompense, ça veut dire quelque part, ils ont eu leur part. Et leur part s'arrête là. Là. La récompense qui est promise dans les lieux célestes, ils ne l'auront pas parce qu'ils l'ont reçue sur la terre. Ça veut dire tout simplement qu'ils sont condamnés en quelque sorte. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Quelle est leur récompense? Ben, étant donné qu'ils ont fait des belles prières, qu'ils avaient des beaux vêtements, c'était les garants de la religion, c'était les garants en quelque sorte de la justice. Ils ont eu le respect des humains. Ils ont eu l'honneur des humains. Ils ont eu la gloire parmi les hommes. C'est ça la récompense qu'ils ont eue. Mais le Seigneur dit, vous ne faites pas comme eux. Ne cherchez pas à être élevé parmi les hommes. Cherchez à être reconnu comme un grand prophète, comme un grand prédicateur, un grand bishop pour lequel on va dérouler le tapis rouge, sur lequel on viendra essuyer les chaussures pendant que tu vas prêcher la parole de Dieu, pour lequel on fera toutes sortes d'offrandes, pour lequel on fera un trône spécial pour lui et pour son épouse à côté. Le Seigneur dit qu'en réalité, tous ces gens-là, ils ont eu leur récompense. Mais il nous dit à nous, ne soyez pas comme eux. Ne cherchez pas à être vus pour être récompensés des hommes. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que lorsqu'on fait de cette manière-là, on n'est plus serviteur de Dieu. On est tout simplement serviteur des hommes. On ne le fait plus pour plaire à Dieu, mais on le fait pour être élevé des hommes. Dans ce cas, nous ne sommes plus serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur nous dit que si réellement vous faites les choses pour moi, ne faites pas de la publicité. Parce que qu'est-ce qui est important? Que les hommes soient au courant, que les hommes voient tout ce que l'on fait. Mais si tu le fais pour moi, fais-le dans ta chambre, moi je le vois. Tu n'as pas besoin que ça soit exposé pour que tu sois reconnu comme quelqu'un qui donne beaucoup d'offrandes, comme quelqu'un qui te sacrifie d'une certaine manière pour l'œuvre de Dieu, comme quelqu'un qui jeûne et qui prie tout le temps pour l'œuvre de Dieu. Si tu le fais pour Dieu, fais-le de façon à ce que les autres ne le sachent pas. Je ne suis pas en train de dire, bien-aimé, qu'on ne va plus prier ici. Je parle de la communion personnelle que nous avons avec le Seigneur. Nous vivons en assemblée et nous devons le faire parce que c'est ce que le Seigneur veut et il prend plaisir à ça. Mais il y a des personnes, en dehors du programme qu'il peut y avoir dans l'assemblée, on est au courant qu'il invite toujours les gens chez lui. Parce qu'il publie partout, moi j'invite un tel, j'invite un tel, j'invite un tel. Tu le fais pour qui? Tu l'as fait pour plaire à Dieu? Tu l'as fait pour avoir de la publicité? Mais si c'est réellement pour Dieu, que Dieu t'a mis à cœur de faire un repas, d'inviter ton frère ou ta sœur, mais que ça reste entre toi et Dieu. Dieu voit la compassion, le souci que tu as eu pour le frère ou pour la sœur, l'amour que tu as eu en voulant partager ce repas avec tel ou tel. Tu as été béni et Dieu t'a mis à cœur de partager cette bénédiction avec l'ancien, avec le diacre, avec le frère. Et que demain tout le monde est au courant. Ah ben lui, lorsqu'il a, il partage avec les autres. Finalement, tu l'as fait pour qui? Le Seigneur dit qu'il voit dans le secret. Ce que les autres n'ont pas vu, lui, il l'a vu. Il le voit parce que tu l'as fait pour lui. Tu n'as pas cherché à te faire de la publicité auprès des autres. Maintenant, si le Seigneur veut rendre ça public, que son nom soit glorifié. Mais si toi, tu l'as fait pour Dieu, que ça reste entre toi et le Seigneur. Que ça reste entre toi et Dieu. Un frère était dans des soucis. Dieu t'a mis à cœur de lui remettre une enveloppe pour le soutenir. Et après ça, d'autres sont au courant. Finalement, tu l'as fait pour qui? Si c'est pour Dieu, parce que tu as une vie personnelle avec Dieu, tu as une communion personnelle avec Dieu, le Seigneur dit, lui, il voit ce que tu as fait. Il dit que ça reste entre toi et lui. C'est ce qu'il nous dit. Fais-le dans le secret. Enferme-toi dans ta chambre. Que ce moment-là soit un moment entre toi et moi. Parce qu'au moment lorsque tu fais ce que Dieu te met à cœur de faire, en aidant, en faisant quelque chose de bon pour l'autre, mais c'est comme un parfum de bonne odeur qui monte vers le Seigneur et qui réjouit le cœur de Dieu. Qui réjouit le cœur de Dieu. Job n'a pas fait la publicité de ce qu'il faisait. Mais le Seigneur dit, c'est un homme intègre. Il dit à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as vu? C'est Dieu lui-même qui faisait la pub de Job. C'est pas Job qui en faisait la pub. C'est Dieu lui-même qui le faisait. Et la Bible nous dit, il le faisait parce que il craignait le Seigneur. C'était un sentiment personnel qu'il avait vis-à-vis de son Dieu. Et le Seigneur nous invite à vivre de cette manière-là. À avoir une vie secrète avec Dieu. Ce que tu fais dans le secret. Ah, mon frère, vraiment, que Dieu soit béni, hein. Dieu m'avait vraiment mis à cœur de prier pour toi, j'ai même jeûné pour toi. Dans quel but? Dans quel but? De rendre le frère endetté. J'ai jeûné pour toi aujourd'hui, j'ai fait ça pour toi, donc souviens-toi-en. Le jour où j'aurai besoin de toi aussi, fais quelque chose. Si tel est le cas, c'est que nous ne l'avons pas fait pour le Seigneur. Le Seigneur dit que lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, entre dans ta chambre. Moi, j'entends les cris que tu formules. J'entends tes prières. J'ai vu comment tu as humilié ton âme dans le jeûne. Je l'ai vu. Les autres n'ont pas besoin de le savoir. Et il y a des gens qui sont connus pour être très spirituels. Parce que tout le monde est au courant qu'il évangélise là-bas. Tout le monde est au courant qu'il jeûne tel jour. Tout le monde est au courant qu'il fait ceci et qu'il fait cela. Tout le monde est au courant. Tu es élevé parmi les hommes. Tu es vu comme quelqu'un de très spirituel. Tu es vu comme quelqu'un qui aime Dieu plus que les autres. Mais tout cela, finalement, ne représente plus rien devant Dieu. Puisque tu l'as fait pour la gloire des hommes. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu le fasses pour lui. Parce qu'il veut une communion personnelle avec toi. Entre dans ta chambre. Prie dans le secret. Et ton Père qui est là dans le secret avec toi, il connaît toutes choses. Et que c'est lui qui te rendra ce qu'il doit te rendre. Ayant une communion personnelle avec Dieu. Ayant une intimité avec le Seigneur. Dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, ça nous profitera à tous, d'une certaine manière. Plusieurs fois, le Seigneur a été en colère vis-à-vis de son peuple Israël. Plusieurs fois, il a menacé de détruire ce peuple-là. Et autant de fois, il a dit, je ne le ferai pas à cause de mon serviteur David. Je ne le ferai pas à cause de mon serviteur David. Tout le monde ne pouvait pas comprendre ce que David ressentait pour Dieu dans son cœur. Tout le monde ne pouvait pas comprendre les actes que David posait. Mais il avait une communion personnelle avec Dieu. Il a eu à un moment donné envie de boire de l'eau qui se trouvait dans le camp de l'ennemi. Il a émis ce souhait-là. J'aimerais boire l'eau qui se trouve là-bas, mais il y a le camp de l'ennemi. Et ses soldats vont braver la mort, traverser le camp, aller chercher l'eau, ramener à David. David va refuser de boire cette eau. Il dit, je ne peux pas boire cette eau-là. Ces hommes ont risqué la mort. Il dit, je ne mérite pas ça. Et la Bible dit qu'il renversa là l'eau devant l'Éternel. Il a considéré que cette eau-là, il ne la méritait pas. Alors il a répondu là, devant le Seigneur. Mais cet acte-là, de façon spirituelle, ceux qui étaient là, qui avaient été témoins de ça, est-ce qu'ils pouvaient comprendre la profondeur du geste que David venait de faire? Lorsqu'ils sont partis en guerre, parce qu'un camp ennemi était venu, avait ravagé le camp où David était, et ils avaient kidnappé femmes et enfants. Alors, David et l'armée sont partis récupérer tout ce qu'on leur avait volé. Et il y a des gens qui boudaient, parce que certains ont été fatigués en cours de route. Ils ont dit, on va se battre quand on revient. Le butin qu'on gagne là-bas, ceux qui sont restés ici, ils ne prennent rien. On va partager ça entre nous qui avons combattu. David a refusé, il a dit non. Même ceux qui ont surveillé les bagages qui sont restés là, ils auront droit à une récompense. Et la Bible nous dit que c'est quelque chose qui s'est pratiqué jusqu'à aujourd'hui en Israël. Ça, c'était un acte qui avait vraiment touché le cœur de Dieu. Parce que David avait un cœur totalement dévoué par le Seigneur. Tous ces actes-là, ceux qui vivaient et qui étaient témoins de ça, ne pouvaient pas comprendre pourquoi David agissait comme ça. Mais ce témoignage de David a fait en sorte que lorsque le peuple méritait d'être détruit, Dieu a dit « Je ne le ferai pas à cause de David. Je ne le ferai pas à cause de David. » Il connaissait Dieu et il avait une relation personnelle avec lui. Alors quelquefois, le Seigneur peut permettre certaines choses. Le Seigneur peut nous sauver de certaines choses. Ce n'est pas toujours à cause de la majorité, car nous savons que dans l'Église, telle que nous la voyons humainement parlant, tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas converti. Mais c'est peut-être à cause de ton intimité avec Dieu. Peut-être à cause du temps que tu as passé hier avec Dieu. Que à cause du cri que tu as manifesté, à cause de la vie que tu as avec le Seigneur, que le Seigneur peut permettre que d'autres soient bénis. Le Seigneur veut une communion personnelle avec nous. Lorsque Dieu parle à son peuple et qu'il réprimande son peuple dans le livre d'Amos, il réprimande son peuple et il dit, regarde-moi ces gens-là. Ils sont là avec les luttes, avec leurs instruments, et ils pensent qu'ils sont aussi habiles que David. Ah, c'est fort ce que Dieu dit. Il regarde les gens en train de jouer, il dit, regarde ces gens-là. Ils pensent qu'ils sont aussi forts que David aux instruments à cordes. Ça montre que lorsque David jouait cet instrument-là, Dieu prenait plaisir à l'écouter. Dieu prenait plaisir à l'écouter. Il dit, ces gens-là pensent qu'ils sont aussi forts que David. Amos 6, 5. Ils extravagent comme s'ils étaient habiles comme mon serviteur David. Loin de là. Parce que David avait une relation personnelle avec Dieu. Et Dieu prenait plaisir à tout ce que David faisait. Tu veux jouer de l'instrument uniquement ici? Tu veux jouer de l'instrument uniquement devant la foule? Mais si Dieu t'a donné ce don-là, pourquoi ne pas l'adorer tout simplement dans ta chambre? Tu penses que chanter doit se faire uniquement en public? Il faut que les gens remarquent que tu as une belle voix. Mais si le Seigneur veut prendre plaisir à ta belle voix dans la chambre, bien-aimé, fais-le. C'est ce qui est important pour Dieu, c'est que nous fassions les choses pour lui. Parce que nous vivons pour lui et que nous avons une communion personnelle avec le Seigneur. Arrêtons de faire les choses en se posant la question, que vont penser les autres? Que vont dire les autres? Ce n'est pas ça qui importe au Seigneur. Ce que le Seigneur veut, c'est toi. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Avoir cette communion personnelle avec toi. Ce qu'il veut, c'est entendre ta prière à toi, personnellement. Ce qu'il veut, c'est entendre ta voix à toi, personnellement. Même si Dieu prend plaisir à voir ses enfants ensemble, ça n'enlève pas la réalité qu'il veut aussi une communion avec toi. Matthieu, chapitre 3. Verset 1er. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. On voit clairement la particularité du ministère de Jean-Baptiste. Sa façon de s'habiller montrait bien que c'était quelqu'un qui était à part. Dans sa logique, la logique du monde n'était pas. Il n'était pas dans la logique du monde. Et la Bible nous dit que il prêchait dans le désert. Nous sommes bien conscients que dans le désert, il n'y a pas des hypermarchés, il n'y a pas des marchés, il n'y a pas des bus, il n'y a pas de commerce. Quand on parle du désert, on voit bien que c'est un lieu qui est désert, c'est un lieu qui est vide. Et avec l'autorité qu'il avait, avec la puissance qu'il avait, le Seigneur a même fait son éloge en disant que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a aucun qui soit aussi grand que Jean-Baptiste. Il avait un ministère particulier, mais il prêchait dans le désert. Parce que c'était la mission que Dieu lui avait confiée. Mais ça n'a pas empêché que les gens viennent à lui pour qu'ils entendent sa prédication. Alors, bien-aimés, si nous servons le Seigneur, si nous avons une communion personnelle avec Dieu, acceptons de faire les choses, non pas pour être vu du nombre, non pas pour être vu du monde, qui est un grand nombre, qui vont apprécier ce qu'on va dire, un grand nombre qui va nous élever. Loin de là, acceptons de faire même ce qui peut paraître petit devant les hommes, parce qu'on ne le fait pas pour les hommes, on le fait pour Dieu. On le fait pour Dieu. Si nous n'avons pas cette communion personnelle avec le Seigneur qui nous amène à accepter finalement, à œuvrer uniquement pour le Seigneur, ça représentera un obstacle lorsque le Seigneur nous demandera de faire 100 km, 200 km juste pour aller visiter une seule âme. De prendre l'avion juste pour aller visiter deux personnes. Ça représentera un obstacle. Mais si nous sommes prêts à œuvrer et à travailler uniquement pour le Seigneur, mais cela, ça passe par le fait déjà d'accepter et de travailler à avoir une communion personnelle avec Dieu, dans lequel nous nous remettons entièrement au Seigneur et que nous devenons un instrument à part entière, un instrument particulier uniquement pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous utilise au milieu de la foule, que son nom soit béni. Que le Seigneur nous utilise dans le désert, que son nom soit béni. Parce que ce qui est important pour nous, c'est d'être avec le Seigneur. C'est d'être avec le Seigneur. Je prie parce que je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu est présent. Il y a des gens qui disent, mais j'ai besoin, quand il y a du monde autour, ça me donne une certaine force. Bien-aimé, c'est pas parce qu'il y a du monde autour, c'est pas parce que ça va crier que forcément ça veut dire que Dieu est là et qu'il approuve tout ce qui se fait. Loin de là. Les gens pensent qu'il faut du mouvement, il faut du bruit, il faut des cris pour dire que Dieu est là. Le Seigneur dit, entre dans ta chambre, je suis là dans le secret avec toi. Je suis dans le secret avec toi. Cherchons à avoir une communion avec le Seigneur bien-aimé. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui, et il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui des mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Et le Seigneur va savoir que c'était elle. Cette femme, la Bible nous dit qu'elle souffrait depuis 12 ans. 12 ans de souffrance sans pouvoir trouver de solution. Non seulement elle souffrait dans son corps, mais voilà qu'encore elle va dépenser tout son bien, tous ses biens. Donc non seulement elle souffrait dans son corps, mais elle va encore dépenser tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a été épuisée. Ça nous montre tout simplement que tant qu'elle avait les moyens, elle cherchait à consulter les humains. Et c'est comme ça que nous sommes. Et c'est ce qui nous éloigne quelquefois d'une communion personnelle avec Dieu. C'est ce qui nous éloigne de la communion avec le Seigneur. Il y a une sœur qui m'a fait une remarque, je crois la semaine dernière. Ma fille se plaignait de maux de ventre. Et puis, j'avais rien fait depuis la maison, je crois. Et à la fin du culte, la sœur vient me voir et me dit, « Ah, ben écoute, pasteur, j'ai vu ta fille, elle avait mal au ventre. » Et je lui ai posé la question, « Est-ce que ton père a prié ?» Non, elle n'a pas prié. Lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai été interpellé. Et j'ai dit, voilà la logique dans laquelle petit à petit on s'inscrit. Lorsqu'il y a un mal physique, le raisonnement, c'est tout de suite le médicament. Un paracétamol, un médicament. Il n'y a pas le réflexe de se dire, on va d'abord prier et on verra après. Et ça m'a interpellé. Et je me suis dit, c'est comme ça que petit à petit, ben finalement, on s'éloigne d'une communion personnelle avec Dieu. Tant que notre logique humaine nous dit qu'il y a des moyens matériels pour pouvoir résoudre le problème, on s'oriente d'abord vers les moyens matériels. Et voilà que cette femme-là, tant qu'elle avait les moyens, allait auprès des médecins. Et ayant tout épuisé, elle vient maintenant se présenter devant le Seigneur. Ainsi, le Seigneur peut permettre de nous emmener tout au fond, de nous emmener à être totalement dépouillés. Là où les humains ne peuvent rien faire pour toi. Une situation là où tu as sollicité et que ça ne marche pas. Pour t'obliger tout simplement à le toucher lui. À te rapprocher de lui et de dire, si seulement je pouvais toucher le Seigneur. Le Seigneur est prêt à nous emmener très loin pour nous ramener à avoir une communion proche avec lui. Une communion rapprochée avec lui. C'est pourquoi le Seigneur permet quelquefois que nous ayons des temps d'épreuves qui durent dans le temps. Parce qu'il sent au-dedans de nous que nous avons encore la force, que nous avons encore l'intelligence, que nous avons encore nos capacités. Alors il va totalement nous démunir de toutes nos forces pour que nous puissions nous retrouver face à face avec lui. C'est pourquoi le Seigneur permet les épreuves, pour que nous puissions être confrontés à lui et restaurer notre communion avec lui. Le Seigneur permet cela. Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 7, il nous est dit qu'il est mieux de se retrouver dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que c'est là la fin de tout homme. Et l'homme qui est là, dans ce deuil-là, il prend les choses à cœur. C'est-à-dire dans le deuil, il se souvient que lui aussi, un jour, il mourra. Donc ce temps de deuil, qui est comme un malheur pour les humains, en réalité est un temps de souffrance, un temps de tristesse, un temps de douleur qui oblige l'homme à avoir la pensée finalement de l'éternité, à avoir la pensée de la mort. Et c'est par ce moyen-là, notamment, que le Seigneur permet que l'homme se rapproche de lui. Parce que lorsqu'il est dans la joie constante, lorsqu'il est constamment dans le festin, dans la fête, il oublie qu'un jour il mourra. Mais cette réalité-là emmène l'homme à s'humilier. Et c'est au moment où l'homme est humilié de cette manière-là, dans le malheur qu'il est en train de vivre, que son cœur est disposé à entendre peut-être la voix du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle aussi par des songes, par des visions nocturnes. Et la Bible dit qu'il nous visite la nuit afin justement de nous préserver de la fosse. Pourquoi? Parce que c'est au moment où nous dormons que nous ne sommes pas agités par les soucis de la vie, que nous ne sommes pas distraits par les soucis de la vie et que le Seigneur profite pour se rapprocher de nous. Donc nous avons besoin quelque part d'être dans des situations où nous ne maîtrisons plus la vie. Celui qui dort, il ne maîtrise pas la vie. Il ne maîtrise pas, il ne sait pas ce qui se passe. Donc quelque part, il est à la merci de tout ce qui peut se produire. Au moment où tu dors profondément, même s'il y a une armée qui arrive au loin, des gens qui viennent pour te faire du mal, au moment où tu es dans le sommeil, tu n'as pas ces réflexes-là de te défendre. Et lorsqu'on est dans l'épreuve, on est aussi dans une forme de vie où on ne maîtrise plus rien. Et c'est au moment où on ne maîtrise rien que le Seigneur peut s'approcher et nous parler. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque le Seigneur permet des instants comme ça, où les choses nous dépassent, c'est à nous de comprendre que peut-être que le Seigneur veut que j'entre dans une communion personnelle avec lui. Peut-être que je m'étais éloigné, que les soucis de la vie, les occupations de la vie m'ont tellement occupé que la pensée de Dieu n'était pas. Alors le Seigneur va créer des moments de calme afin que nous puissions nous rapprocher de lui et restaurer notre communion personnelle avec lui. C'est aussi très important, bien-aimé, de revenir au Seigneur et de chercher une communion personnelle avec lui. Zachée, chef des publicains, n'a pas eu honte. Un chef qui monte sur un arbre, c'est vraiment honteux. Il était de petite taille, donc il ne pouvait pas approcher le Seigneur comme ça. Mais il n'a pas regardé aux autres. Il a regardé à lui personnellement. Les gens pouvaient se moquer, mais le Seigneur connaissait le cœur de Zachée. C'est pourquoi lorsqu'il a vu Zachée, il lui a aussi parlé individuellement. Zachée, descend, car il faut que je mange chez toi. Il lui a parlé individuellement parce qu'il avait vu le cœur de Zachée individuellement. Il a vu que Zachée s'est humilié. Il est monté sur un arbre, lui un chef, parce qu'il cherchait, la Bible nous dit, il cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Ça veut dire que jusque-là, Zachée n'avait simplement entendu parler de Jésus. Il connaissait de Jésus uniquement par la réputation. Mais lorsqu'il a appris que Jésus passerait non loin de chez lui, la Bible nous dit qu'il est monté sur l'arbre parce qu'il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus personnellement. Il ne voulait plus se contenter d'un Jésus qu'il avait entendu par les autres, vu par les autres. Il voulait lui-même voir Jésus. Sortons, bien-aimés, d'une communion avec Dieu à travers les autres. Cherchons à avoir une communion personnelle. On entend les exploits que Dieu fait avec les autres. On entend les songes que font les autres. On entend la parole que Dieu donne aux autres. Mais est-ce que tu n'as pas envie la parole d'entendre toi aussi? Le témoignage que tu fais, c'est toujours le témoignage des autres. Est-ce que tu n'as pas envie d'avoir une histoire personnelle où tu vas raconter toi ton témoignage à toi? Tu glorifies Dieu à travers le témoignage des autres. Mais toi personnellement, est-ce que tu n'as pas envie de dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi? Parce que tu as eu une histoire personnelle avec Dieu. Parce que tu as une communion personnelle avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à restaurer cela. On ne néglige pas, on ne méprise pas la communion fraternelle. On ne méprise pas la vie de l'Église. Parce que c'est ça qui est l'un des piliers de l'Évangile. Mais on ne méprise pas aussi la réalité que le Seigneur veut une communion personnelle entre lui et nous. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, aujourd'hui encore, Seigneur de gloire, nous venons devant toi, Seigneur. Et c'est vrai que même si nous sommes en assemblée, Seigneur, nous voulons que nos cœurs soient tournés vers toi de façon individuelle. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que tu regardes à notre cœur, Seigneur, car nous venons aujourd'hui encore nous livrer entre tes mains. Seigneur, tu vois notre façon de vivre, Seigneur. Tu vois tout ce que nous faisons, Seigneur de gloire, qui nous a éloignés de toi, qui a étouffé notre communion personnelle avec toi, Seigneur, à tel point que notre vie avec toi dépend de l'Église, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas de cela. Nous ne voulons pas simplement t'adorer parce que il y a l'équipe de louange. Nous ne voulons pas simplement prier parce que c'est le jour de l'intercession. Mais nous voulons chanter, Seigneur Dieu de gloire, même lorsque nous sommes seuls. Nous voulons te dire, Seigneur de gloire, combien tu es grand, combien tu es bon, même lorsque nous sommes seuls. Nous voulons chanter et danser pour toi, même lorsque nous sommes seuls, Seigneur. Même si d'autres nous surprendront en train de danser seuls, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons le faire pour toi. Seigneur, aide-nous. Tu vois tout ce que nous avons mal fait. Tu vois combien la réalité du monde nous a gagné, Seigneur de gloire, et a pris tellement de la place dans nos vies, Seigneur de gloire, à tel point, Seigneur, que nos temps de prière sont perturbés. Pendant que nous te prions, Seigneur de gloire, la pensée est ailleurs, Seigneur. Pendant que nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, nous nous laissons distraire par le téléphone, par l'ordinateur, par la télévision. Seigneur, pardonne-nous cette négligence, Seigneur, et aide-nous à restaurer, Seigneur de gloire, notre amitié avec toi, notre relation personnelle avec toi. Seigneur, c'est notre prière. Dans le nom de Jésus, Seigneur, il est écrit que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Nous venons à toi encore aujourd'hui, Seigneur de gloire, tel que nous sommes, Seigneur, afin que tu accomplisses une œuvre parfaite en nous. Aide-nous, Seigneur de gloire, à prendre plaisir, Seigneur de gloire, à aimer ta présence plus que tout, Seigneur. À désirer ces moments, Seigneur Dieu de gloire, d'intimité avec toi, Seigneur. À rechercher cela, Seigneur. À nous organiser dans la maison, Seigneur, afin que ce temps, Seigneur de gloire, existe, Seigneur. Dans le nom de Jésus, aide-nous à nous organiser, Seigneur. Car bien souvent, Seigneur de gloire, lorsque nous nous occupons de tout ce qui est domestique, terrestre, Seigneur, au moment, Seigneur de gloire, où nous pouvons être seuls avec toi, eh bien, c'est le sommeil qui nous saisit, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, à nous organiser. Toi qui donnes l'intelligence aux sages, accorde-nous l'intelligence, Seigneur, d'être organisés, Seigneur, afin, Seigneur Dieu de gloire, de ne pas passer une journée, Seigneur, sans avoir passé un temps avec toi. Aussi petit que ce moment puisse être, Seigneur, mais que ça soit un désir profond pour nous, une recherche de chaque jour, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu. Toi qui produis en nous le vouloir et le faire, Seigneur, nous venons à toi et c'est notre prière. Aide-nous. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire, de ce que c'est aussi important pour toi, Seigneur. C'est pourquoi tu nous le rappelles aujourd'hui. Et ça nous montre, Seigneur de gloire, combien tu nous aimes. Ça nous montre, Seigneur de gloire, combien, Seigneur de gloire, tu voudrais que nous aimions aussi ta présence. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, Seigneur de gloire, toi qui règnes au siècle des siècles, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen.